Les deux invités de cette émission tiennent à conserver l'anonymat, mais pas à rester dans l'ombre. Ils sont au rock garage marseillais, ce que les Daft Punk sont à l'électro, Banksy au street art, ou Elena Ferrante à la littérature italienne. Les Fuzz and Drums.
Deux quadras sans âge qui, à la nuit tombée, enfilent leur costume de super-héros et s'envolent pour sauver le rock des années 70 et celui des années 90. Nous allons tenter d'en savoir plus dans cette kermesse à Manhattan, placée sous le sceau du mystère.
Bonjour, nous sommes The Fuzz and Drums, un duo guitare-batterie marseillais. Nous jouons du rock garage, influencé par le rock'n'roll du début des années 70. Cependant, notre son peut parfois être bien plus gras, et faire ainsi référence au rock du début des années 90. Pour vous faire une idée de notre musique, nous vous invitons à regarder quelques-unes de nos vidéos. Il y a par exemple
« I don't want to be the one ».
Mais aussi
Call the Referee.
Ou bien
So Long.
Eh bien, donc je suis Drums. Vous avez donc bien compris qu'il s'agit de mon nom de scène, mon nom d'artiste, mon nom de super-héros derrière lequel je me cache, mais qui porte le nom aussi de mon instrument. Et donc ça tombe bien puisque des instruments, il n'y en a pas beaucoup dans le groupe, il y en a que deux. Je suis donc le batteur. Mine de rien, ça fait un petit moment que je tape sur mes fûts avec mon compagnon. Et là, on en arrive à la version épurée. Où on est tous les deux à développer notre rock cru et poilu comme on l'aime. Avec Fuzz and Drums, ce qui me touche le plus, c'est le côté un peu défoulatoire et rigolo, second degré, le show rock'n'roll comme on l'aime et qu'on a envie de proposer aux autres.
Alors moi, c'est Fuzz, et je suis guitariste et chanteur dans The Fuzz and Drums, et c'est tout. Fuzz, c'est un effet qu'on branche sur une guitare et qui donne un son, c'est un effet qui est né au milieu des années 60, que Jimi Hendrix a de suite adoré et s'est jeté dessus, et c'est un des premiers à avoir utilisé cet effet, qui transforme ton son de guitare en un son ultra saturé, énormément compressé dans les aigus, et qui fait et j'aime bien ce son.
Qu'est-ce que vous faites comme musique ?
Alors, ce qu'on marque sur les flyers, c'est rock garage 70s, mais c'est peut-être un peu trop réducteur. Mais c'est vrai qu'on aime bien puiser au début des années 70, plutôt au début, plutôt la période Led Zepp. On peut aussi dire qu'il y a des échos au niveau des années 90. Voilà, c'est début 70, début 90. Et au final, ça te fait un mélange qui va sonner assez années 2000, en fait, sur les duos qui sont révélés au début des années 2000, qui étaient assez rares au début et qui le sont beaucoup moins maintenant. Je pense aux White Stripes, même si on ne sonne pas comme eux, mais c'est un des premiers à avoir dit « mais on peut le faire à deux ». Avant, il fallait être trois pour faire du rock'n'roll. Et c'est depuis le tout début des années 2000 que le rock à deux a commencé vraiment à être assumé et assumable.
Vous êtes connu, comment ça a démarré votre groupe et quand ?
C'est Fuzz qui est venu me chercher.
Je suis venu te draguer.
Qui est venu me séduire. On était donc tous les deux dans un lycée à Marseille, à Jean Perrin, pour tout dire, pour faire ça fait partie de la légende maintenant. Il y avait un internat. Et qui dit internat, il y avait un local de répète avec une batterie, un ampli, etc. Et donc Fuzz est venu me voir. en me disant « Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» Et moi, j'ai dit « Oui !» Et donc, sur le coup, on avait trouvé donc un clavier avec nous et on avait commencé à faire tourner un petit régulièrement, comme ça, des répètes qui ont fini par devenir quasiment des mini-concerts à chaque semaine. C'était un espèce de rendez-vous qu'on donnait à l'internat. Et mine de rien, ça a duré 2 ans, cette histoire. Donc, on a eu le temps de se connaître un petit peu. À la fin de cette aventure, on allait partir chacun sur nos études supérieures. Et Fuzz m'a dit « Je sais qu'on ne va pas se voir d'un long moment parce qu'on va partir chacun sur notre parcours, mais on n'hésite pas, même si ça fait 8 ans, 7 ans ou 6 ans qu'on ne s'est pas vu, on osera quand même se rappeler. » Et c'est exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire 7 ans après, il m'a rappelé en me disant « Je cherche un drums à mon groupe, quoi. » Et j'ai dit « Oui ».
Effectivement, 7 ans après qu'on soit perdu de vue, je rencontre un bassiste avec lequel on faisait de la musique et on avait vraiment besoin d'un batteur et je ne connaissais qu'un seul batteur pour pouvoir relever ce défi. Il s'agissait de drums. Et donc j'ai pris mon téléphone, mon Nokia 3310 à l'époque. Il a tout de suite dit banco et on est reparti sur un trio, guitare, basse, batterie. Et ce trio, il a un peu tourné à Marseille entre 2003 et 2008 et ce trio s'appelait Shrink. On a sorti 2 albums avec Shrink avant de devenir un duo.
Oui, alors il faut qu'on vous explique pourquoi deux. Mais non, on était en tournée internationale avec notre jet privé et là une météorite est tombée sur l'avion et le drame, on s'est écrasé, le bassiste est mort, le clavier est mort, le cœur gospel, la section cuivre, un véritable massacre. On est les deux seuls survivants.
Chaque début de spectacle, je donne une version différente à l'absence de ce bassiste. Alors, il y a eu l'accident d'avion avec tout le groupe qui meurt, sauf nous deux, seul rescapé. Il y a aussi l'idée aussi d'une île déserte où on n'est plus que trois. Il faut bien dévouer qui va nourrir les autres. Quoi. Donc, c'est le bassiste qui se sacrifie. Quoi. Donc, on a plusieurs versions comme ça, mais la réalité est beaucoup plus bête et méchante. Le bassiste a eu donc une opportunité. Donc, il est parti au Canada pour la suite de sa vie. Du coup, ben, l'aventure Shrinks s'est terminée en beauté. Le climax de Shrinks, ça a été de faire un concert donc, à Montréal et deux concerts à New York. Oui, nous sommes morts, mais nous sommes morts en beauté. C'était une belle aventure et justement la question c'était ben, puisqu'on a terminé aussi bien et qu'il était si remplaçable et si on ne le remplaçait pas. De ce constat est devenu, c'est devenu un défi, c'était devenu un challenge comme ils disent outre Québec.
S'amuser à composer par la contrainte, c'est-à-dire se dire que peut-on faire avec juste une guitare, une batterie, une voix, puis ensuite un peu plus tard dans l'histoire de The Thousand Drums, il y a une deuxième voix, la voix de drums qui s'est mise sur les bandes. Et donc le but du jeu, c'est d'arriver à composer par la contrainte. Et donc on peut pas tout faire. Forcément, on va pas pouvoir t'envoyer des violons, on pourra pas mettre des congas et du piano. Mais c'est pas grave. On se débrouille sans sampleur, sans rien. On a juste une guitare, des effets, une batterie, deux voix, et on essaie de composer avec. C'est pas évident de pas avoir de basse. Il manque une assise rythmique considérable. Mais du coup, c'est rigolo, quoi, parce que le jeu de guitare change énormément. Et le fait d'avoir deux voix qui sont en permanence en train de se chercher à la tierce, ça va faire qu'on va essayer de construire une harmonie au-dessus de cette base rythmique assez lourde, quoi.
Quoi quand vous étiez ados tous les deux?
Alors Drums était toujours dans son côté éclectique, jazz, classique, opéra et rock, metal. Moi j'étais beaucoup plus restreint. Ma construction musicale c'est Jimi Hendrix et les Beatles. C'est vraiment le mélange, le côté ultra mélodique et le côté ultra évident de la musique des Beatles. Paperback writer. Mélanger côté ultra créatif au niveau guitaristique, je parle. Hein. Maintenant pour Jimi Hendrix, c'est vraiment voilà, c'est les deux mamelles de la construction de Fuzz. et puis bien sûr Nirvana, parce qu'on était en plein dans les Nirvana quand j'ai appris à jouer de la guitare. Donc voilà, il y a vraiment le triptyque grunge, rock et puis le côté Beatles. Is there all that
comment Fuzz est-il arrivé à la guitare ?
Oh, parce que j'en avais marre de jouer de l'harmonica. Alors, j'étais en seconde, je m'étais acheté à l'harmonica parce que j'avais envie de jouer des instruments. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas chanter en même temps.
C'est difficile.
Ça, je m'en suis rendu compte après l'avoir acheté. Non, mais sérieusement, voilà, j'ai appris trois morceaux. Je me suis amusé à faire trois morceaux à l'harmonica. Je me suis dit, bon, c'est super, mais j'ai besoin d'un instrument un peu plus complet. Je m'excuse par avance à tous les harmonicistes. C'est un très bel instrument. Voilà, donc je me suis mis la guitare, une guitare dite folk, donc une guitare à cordes acier. Et j'en ai fait un an. J'ai pris un mois et demi, deux mois, trois mois de cours de guitare. Et le prof m'a jamais appris un seul morceau, c'est génial, je suis vraiment reconnaissant. Il m'a jamais appris un morceau, il m'a appris à jouer la guitare, vraiment, à jouer juste, à jouer dans une gamme. Et donc voilà, grâce à lui, j'ai jamais appris un morceau, mais par contre, je savais à peu près jouer la guitare assez vite. Donc on peut dire que j'ai quasiment pas fait de musique avant, en fait. J'ai fait trois mois de piano quand j'avais 7 ans. Et en fait, si tu veux vraiment une anecdote, j'ai arrêté le piano parce que ça passait en même temps que Tom Sawyer. Enfin, mon prof venait en même temps que Tom Sawyer. Et comme il n'y avait pas de replay à l'époque, eh bien, j'ai arrêté le piano pour continuer à avoir Tom Sawyer. Quoi. Mon père écoutait du classique et ma mère écoutait du désirless. Donc du coup, dans ce mélange-là, non mais c'est pas vrai, ils écoutaient aussi beaucoup de Brassens et donc voilà, et des Beatles aussi, ils avaient un peu de Beatles. Donc à la maison, on écoutait Brassens, Beatles, désirless et Mozart. C'est éclectique aussi, ouais. Sgt Pepper, ouais. Ce morceau des Beatles, on a le vinyle, enfin mes parents avaient le vinyle et je l'écoutais en boucle, l'album et le morceau. Ouais. Ça me rappelle vraiment mon enfance. Ouais.
J'ai eu un peu la mauvaise expérience que Fuzz, c'est-à-dire commencer le solfège dans une école où on apprenait ça de façon très très militaire et très froide, et donc j'ai été dégoûté très rapidement de la musique tout jeune, et pourtant ça me plaisait énormément. Donc j'ai laissé tomber la musique et l'instrument, jusqu'à ce que mon père récupère une vieille batterie, que j'utilise toujours, c'est celle que j'utilise toujours maintenant. Et j'ai appris tout seul, comme ça, en autodidacte complet, parce qu'il n'y avait pas besoin de solfège. C'était l'idée d'avoir un instrument qui soit peut-être plus instinctif, quoi. Et c'est à force d'écouter les autres, de gratter, de regarder comment font les autres, etc., de s'inspirer. Du coup, j'ai appris comme ça la musique directement. Avec l'instrument. Quoi.
C'est pas une batterie que trouvée dans une poubelle, c'est une batterie, c'est une pièce de collection. Quoi, hein.
Voilà, c'est une batterie qui date fin 50, début 60. Quoi. Donc c'est une antiquité et ça correspond bien avec notre côté vintage. Quoi. C'est une vieille Gretsch. Mes parents étaient très très fans de musique classique, tous les deux. Ils écoutaient beaucoup de baroque et de musique classique. Voilà. Un peu de jazz, et donc c'est des choses qui me plaisaient aussi, mais qui leur appartenaient à eux. Hein. Et ils avaient des Beatles aussi. Donc bizarrement, c'est les Beatles qui sont un peu liants à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu le intergénérationnel, intermusical. C'est pour ça que c'est si fondateur, hein, les Beatles. Quoi. Let me tell you. Et je me suis créé un peu mon identité par le rock. Et en plus, c'était une période au collège où on avait des groupes de bandes de potes. Il y avait les fans de raga, les fans de hip-hop. Et moi, je faisais partie des rockers qui avaient les cheveux longs avec les vestes en cuir. Quoi, voilà. Donc, c'était mon identité. Alors, ça a commencé par un truc très, très bête. J'avais vu un clip de ZZ Top. Donc, j'ai commencé par les ZZ Top. Donc, c'est du bon rock texan, mais que je renie pas parce que ça me fait bien dégrer.
D'où la barbe d'aujourd'hui.
Ouais. D'où la barbe d'aujourd'hui, mais qui reste modeste pour le coup. Et donc après les ZZ Top, en fait, c'était là en pleine période grunge et tout, donc j'ai pleuré quand Kurt Cobain est mort, comme toute ma génération. Et donc j'étais très grunge et j'ai découvert ce qui était aussi fusion. Et donc je suis tombé amoureux d'un d'un groupe qui s'appelait Face No More et Mr. Bungle après par la suite, et donc de Mike Patton, leur chanteur, qui est une espèce de type fou et expérimental, et ça c'est un truc qui me passionne, quoi. Et donc du coup l'idée d'hybridation, de défi musical, ça a toujours été quelque chose qui me... L'expérimentation, c'est un truc qui m'a toujours plu. Voilà, j'ai construit beaucoup ma culture musicale autour du métissage musical et justement mélanger mon amour pour les musiques, voilà, les voix bulgares, mélanger à Chet Baker et Black Sabbath, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a un morceau fondateur ?
Je dirais Midlife Crisis de Face No More. Quand j'ai écouté l'album, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi cet album ? En fait, il n'y a que ce morceau-là qui me plaît. Et je trouvais tout le reste très, très bizarre. Et en fait, c'est à force d'écouter cet album-là que je me suis un peu ouvert musicalement. Et maintenant...
Drums est né à ce moment-là.
Oui, voilà. C'est ça.
Morceau qui caractérise le mieux ce que vous faites ?
C'est très embêtant comme question, parce que quand on se pose la question, tiens, on va passer à la radio, tiens, on va faire ça, qu'est-ce qu'on joue comme morceau ? On ne sait pas, en fait. On est vraiment embêté parce qu'un morceau va être trop funk groove, un autre va être beaucoup trop stoner, et donc on est vraiment embêté. On n'en a pas, vraiment, c'est honnête. Peut-être que Drums répondra différemment, mais on n'arrive pas à trouver le morceau qui nous caractérise, parce que si on... On joue, c'est pour ça qu'on aime bien en jouer plusieurs, justement, pour essayer de montrer qu'on a un univers assez large.
C'est que ça dépend, qu'est-ce qu'on veut montrer de nous. Si on veut montrer une facette plus décalée, rigolote, second degré, on va plutôt aller piocher sur des morceaux un peu plus... un hommage toussé, des morceaux un peu plus... avec pas mal de gimmicks, avec des stops, etc. Si on veut faire quelque chose qui soit un peu plus travaillé au niveau mélodique et tout, on va aller plutôt sur So Long.
si on veut montrer nos grosses influences hendrixiennes, on va aller sur Help Me Get Into The Groove. En fait, en gros, normalement, si ça marche, à l'oreille, aux premières notes, on se dit tiens, c'est eux, quoi, parce qu'on reconnaît un peu notre son. Mais si on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses assez différentes à l'intérieur.
Je voudrais savoir comment vous composez. Est-ce que chacun fait son truc de son côté? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a des rôles qui sont répartis?
Alors, c'est assez variable. Des fois, je viens avec une idée et je la soumets à Drums et on travaille autour. Mais de plus en plus souvent, sur les dernières années, c'est des choses qui naissent en répète, vu qu'on a la chance de pouvoir répéter vraiment sans se minuter. On laisse toujours tourner une bande derrière pour pouvoir garder des idées. Et très souvent, c'est un riff qui donne lieu à un refrain avec un rythme. Quand Drums part sur un rythme, moi, j'essaie de broder quelque chose par-dessus. Et on va construire une musique comme ça. C'est vraiment un travail collaboratif. Et puis, ce qui est rigolo, c'est les paroles. Les paroles, c'est n'importe quoi. Donc, ça va être ça va être beaucoup de phonèmes qui veulent rien dire. Et quand il y a quelqu'un qui nous dit « Bon, on est en train de faire un CD, les Fuzz and Drums, vous voulez bien faire un morceau sur ce CD ?» Et quand on répond « Oui », à ce moment-là, il faut faire des paroles. Donc, on n'a plus le choix, là. Donc, du coup, on se prend « Allez !» Une demi-heure pour écrire des paroles avec des bons bouts de phrases bien clichés qui sonnent bien. Enfin, on met surtout en avant les sonorités. Et là, c'est là que les Beatles, première période, sont importants parce qu'ils ont des phrases courtes qui sonnent super bien. Après, ils sont beaucoup plus profonds dans ce qu'ils racontent. Mais au tout début, c'est juste
Love, love me do.
Love, love me do. She love you, yeah, yeah, yeah. Et voilà.
I love you.
Voilà, quand il faut composer des paroles, on se prend un peu la tête. Et puis après, on aime bien les oublier, parce qu'on est nul en mémoire des mots. Pas pour la musique, mais pour les mots, on a du mal. Donc on balance du yaourt sur scène.
Is someone listening? Okay.
Donc il y avait l'idée quand même d'arriver, de proposer quelque chose et après de le retravailler en équipe, quoi. Alors que là, on est vraiment sur l'idée du jam, quoi. Clairement, d'ailleurs, la répète, elle commence par « il s'accorde, cling, cling, cling », et au bout de trois notes de la dernière corde accordée, il est déjà parti sur un accord et on est déjà parti en train de jouer un morceau. Et en plus ça va, et plus le côté un peu télépathique nous intéresse. Le côté, je fais un appel, il va partir en solo, hop, attention, il va basculer sur un refrain, je le fais venir, je calme le jeu pour qu'il puisse monter. Voilà. Ce côté, on ne se parle pas, mais on communique quand même par la musique, quoi. Et ça, c'est tellement bon, en fait, quoi.
C'est vrai qu'il y a une grande complicité, ça nous arrivait de faire des répètes déjà tous les deux et de s'amuser pas mal déjà. Donc oui, il y a le temps qui fait la complicité, mais il y a aussi la complicité qui existe depuis le début.
Donc donc c'est aussi une histoire d'amitié virile, Fuzz and Drums.
Bien évidemment, c'est une histoire d'amour.
Oui, bien sûr que c'est une histoire d'amitié. Et c'est le moteur du truc, c'est un peu notre espace de respiration, notre moment à nous dans la semaine. Hein. C'est-à-dire que c'est le moment où on n'est ni dans le boulot, ni dans la famille, ni dans rien du tout. On est dans notre truc à nous, quoi. Et c'est un truc qu'on partage à deux et qui nous fait délirer. Et on s'amuse à faire des reprises stupides ou à composer sérieusement des choses ou à prendre... On fait un peu tout, mais en tout cas, il y a l'idée que ce qu'on fait, ça nous appartient à nous et qu'à nous, et que ça fait du bien, quoi. On s'éclate, quoi. Ce côté défoulatoire, c'est à la fois pour nous, et après, c'est quelque chose qu'on a envie de communiquer. Après, quand on veut basculer ça en concert ou en album, il y a le côté de on se fait plaisir et on a envie de le communiquer aux autres.
On essaie de faire ressentir aux gens ce qu'on nous on ressent quand on joue de la musique. On n'a pas envie de jouer des morceaux qui vont être tristes, lents, langoureux. On veut vraiment quelque chose qui soit assez efficace, assez rapidement.
Bien évidemment, ça fait partie du gag. C'est-à-dire que sur scène, il y a une espèce de partage de rôle. Et quand on parle de rôle, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'une théâtralité, quoi. En fait, on voulait éviter ce côté des concerts avec un groupe qui joue très très bien et qui, une fois le morceau terminé, dit « Merci ». Et le soufflet retombe. Et avant que le morceau recommence, il dit « Oh, maintenant, le morceau s'appelle Destroy Destruction ». Voilà. Ça nous énerve, quoi. Du coup, on a trouvé cette espèce d'astuce des personnages pour faire ça. Et mine de rien, ça nous donne une liberté parce qu'on n'a pas de métier. On n'a pas de vie derrière, on est juste des personnages. Et ça nous permet d'être libres aussi, quoi.
Très pratique d'avoir un nom public pour la musique et garder son nom privé pour tes autres activités, pour le privé.
Alors, qu'est-ce que c'est la Fuzz and Drums Cave?
Tu veux dire la salle de répète secrète, tu veux dire? Eh bien, c'est un endroit complètement secret, à l'extrémité sud de Marseille, donc ça donne déjà un indice certain, et on peut jouer aussi longtemps qu'on veut, à n'importe quelle heure de la nuit, surtout. Et donc, voilà, c'est notre petite cave. C'est là qu'on a nos instrus.
Oui, pour continuer le mythe, l'idée d'avoir une espèce d'endroit qui soit ni un endroit réservé habituellement à la musique, en tout cas, c'est pas des salles de répète qu'on loue, etc. C'est un lieu qu'on a construit nous, et mine de rien, il commence à y avoir du matos dedans. Et c'est un lieu qu'on partage aussi un petit peu, avec parcimonie, mais on partage un petit peu. C'est un lieu qu'on s'est quand même réservé et où on parlait d'espace de liberté, mais c'est ça. En gros, à partir de 6h du soir jusqu'à plus soif, on peut jouer tant qu'on veut. Donc on s'est réservé un jour de la semaine comme ça où on n'a pas de limite. Pas de limite d'heure, pas de limite de volume de son. On peut expérimenter, on peut faire les cons, on peut essayer de chercher des choses, construire, ou au contraire divaguer, voilà. Et on fait ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on cherche, donc on est content.
Et là, vous n'avez quand même pas opté pour le fait d'être anonyme totalement. Vous n'avez pas choisi de porter des masques, des casques.
Il y en a d'autres qui l'ont fait avant, donc on s'est dit ça s'est cramé, donc ça s'est fait. C'est ça, c'est ce que tu ne sais pas. Tu veux un autographe maintenant?
Non, mais par contre, on a une identité visuelle. Donc on a le côté, on fait des petites vidéos. Et tout en noir et blanc. Donc on a un code visuel, c'est du noir et blanc, que ce soit la pochette, le logo, les vidéos, toutes les photos qu'on produit de ce qu'on fait, c'est toujours ce code-là.
Alors pourquoi le noir et blanc?
Parce que t'as pas besoin de te maquiller avant. Alors, mais c'est pas une blague, parce que quand tu passes sur une vidéo, ça fait de suite amateur de pas être maquillé. C'est pas péjoratif. Quand t'es jeune, tu t'en fous de pas être maquillé. Mais quand t'es vieux, c'est différent. Et du coup, le noir et blanc, ça a l'avantage de mettre une identité très forte visuelle. Et puis le deuxième avantage, c'est que tu peux shooter avec ta perche à selfie sur le vieux port, dans le panier, à la minute. Ça, c'est vraiment très très pratique.
Les mouettes volent bas, c'est la deuxième partie de cette émission, celle où les masques tombent, où l'on met cartes sur table. Fuzz and Drums à la scène ont un métier à la ville.
L'un est chercheur, l'autre professeur. La tête sur les épaules et le réalisme chevillé au corps, nos deux musicos rêveraient bien du succès.
Si ce n'était pas si difficile d'y croire encore. Est-ce qu'il y a quand même des zones d'ombre dans l'histoire de Fuzz and Drums ?
Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'ombre.
Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est ado, puisqu'on reparle d'ado, etc., il y a une espèce de fantasme derrière la musique et le rock, etc. On imagine de faire un peu sa vie dedans. Et c'est beaucoup de fantasmes. Clairement, nous, on n'en vit pas. Ce n'est pas notre métier. Mais du coup, on a quand même construit quelque chose de brique par brique. Brique par brique. Quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose de plus en plus pas professionnel, mais pas loin en tout cas, cohérent quoi. Donc non, on ne vit pas de la musique, non, on n'est pas des rockstars, mais voilà, quelque part c'est plus dans notre tête. On n'est plus dans ce fantasme-là, parce qu'on est trop vieux pour ça, mais en même temps, on a gardé l'essentiel. Donc oui, il y a un côté un peu désabusé derrière tout ça, et en même temps, il y a un vrai plaisir aussi.
Est-ce que c'est pas quand même difficile à un moment de renoncer à se dire voilà, on sera pas des superstars?
Non, il a pas dit un renoncement, il a dit que dans sa tête, dans nos têtes, il y avait plus ce côté rêve adolescent de faire carrière. Maintenant, le rêve, c'est de faire partie de la BO de FIFA, tu vois. Si demain, EA Sports nous contacte pour dire « Écoutez, on a vraiment besoin pour FIFA 2020, on a besoin d'un morceau de The Fuzz and Drums. » Alors là, c'est clair que ça s'appelle le succès, tu vois. Donc là, tu nous referas une interview et on te répondra différemment.
Ou j'aurai pas d'interview, peut-être.
T'auras du mal à avoir une interview, voilà. Donc profite bien.
Je sens que je vais ramer.
Profite bien de cette interview.
Après, c'est clair que faire des concerts, c'est toujours un peu galère de trouver des lieux, trouver des dates, faire venir des gens. Parce que justement, ce qui a été plein galère, c'est comment se produire quand on n'est pas entouré, quand on est seul. On a à peu près écumé toutes les places sur Marseille. Alors, le feu Balthazar, Molotov, Lounge, Poste à Galène, feu Machine à coudre, etc. Et à chaque fois, il fallait démarcher, venir, trouver un plateau, tenir les entrées, etc. Donc ça, c'est un peu plein galère, c'est un peu lourd. Ça fait beaucoup d'énergie, amener le matos, etc. pour finalement avoir juste pour une espèce d'autosatisfaction. Voilà. Donc quand on arrive à se dégager un peu de ça, on garde plus que le plaisir. Donc oui, c'est bon.
C'est tout le temps dans le côté je fabrique quelque chose avec mes petits doigts et avec mes petites cordes de guitare. Et si les gens t'écoutent pas, c'est un peu embêtant. Donc tu es content de ton morceau, de la complicité qu'il y a avec ton pote Drums. Mais c'est pour cette raison-là aussi, Drums l'a dit tout à l'heure, on fait des vidéos pour que les gens nous écoutent. Ça paraît débile de dire pour les gens, mais pourtant c'est de la musique que vous faites pas des images. Non, mais les gens n'écoutent plus la musique, ils la regardent maintenant. Les gens écoutent la musique sur YouTube. Pas tout le monde, hein. Attention, il y a des gens qui vont dire « Oh non, c'est pas vrai, hein. Moi j'écoute des vinyles. » Oui, il y en a qui écoutent des vinyles, ils sont peu nombreux, ils sont actifs mais peu nombreux. La plupart des gens, ils écoutent sur YouTube et donc ils regardent. C'est pour ça qu'on s'amuse à faire des vidéos assez rapidement pour que les gens se disent « Ah ben tiens, c'est marrant, leur musique est pas mal en fait, puisque j'ai vu les images, ça m'a permis d'écouter leur musique. » C'est un prétexte en fait. Pour en revenir à la question, quand tu fais quelque chose d'artistique, tu as envie de le partager, en fait. Tu te mets à poil au niveau musical, tu es critiquable, tu es exposé à la critique. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y a des critiques marseillais qui nous aiment moyennement, d'autres qui nous aiment beaucoup. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de partager ce que tu as fabriqué et d'écouter ce que les autres ont fait.
Ces 6 années là d'élaboration de votre album, est-ce que vous avez connu des moments de découragement ?
On a bien compris que si on a envie de matérialiser ce qu'on produit, on répète, que ce soit pas juste un amusement comme ça entre nous deux le vendredi soir. Si on veut que ça se concrétise, il faut qu'il y ait un objet. Et cet objet, c'est un album. Donc c'est vrai que l'album là qu'on a enfin sorti, quoi, qui est le seul album de Fuzz and Drums, quoi, du duo, il a été très très long à mettre en place. Il a mis beaucoup de temps pour plein de raisons diverses, quoi. Et c'est vrai que ça a créé une frustration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a senti que ce qu'on produisait ne correspondait plus à ce qu'on faisait, ou qu'on s'éloignait de ce qu'on avait envie de faire, ou que finalement ça n'aboutirait jamais, parce que ça a mis plus de 6 ans. Donc,
Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire alors ?
Le concept qu'on a dans le groupe, c'est un côté un peu cru, sans fioritures. Il ne s'agissait pas de mettre des arrangements de cordes, etc. Donc on a enregistré batterie-guitare en live direct, sans les voix, et on a fait toutes les prises de tout l'album en 2 grosses soirées. Quoi. Voilà, en 2 jours, c'était plié, on avait tout enregistré. Et en se disant, les pains, les petits ratés, les petits trucs qui sont comme ça, ça fait partie du jeu. Le petit bruit de baguette à la fin, le ressort du truc, le Larsen derrière, tout ça, ça fait partie de l'ambiance. On se revendique garage et on va faire ça. Et en fait, après, on l'a réécouté dans des super conditions, avec des super haut-parleurs, etc. Et ces défauts nous ont semblé énormes. Et on n'a pas réussi à les assumer tels quels. Donc, on a commencé à un processus pour nettoyer un peu ça, pour retravailler ça. Et comme on avait des emplois du temps qui ne correspondaient pas toujours, et que ce processus a pris du temps, et qu'on a fait des choix, on a eu des problèmes techniques, de sauvegarde, qui se sont multipliés, tout ceci s'est accumulé, a pris un temps fou, plus des grandes plages de vide, de rien, où le temps s'est écoulé, où c'était en plan. Ça a mis 6 ans et bien évidemment, c'est pas 6 ans de travail, c'est le temps de travail qui finalement était pas si long que ça, qui a été écarté, étiré dans le temps, voilà. Ce qui fait qu'à la fin, c'est posé la question, c'est est-ce que ce qu'on a fait il y a 6 ans correspond à ce qu'on produit maintenant, quoi ? Est-ce que c'est toujours nous ? Ce qui se passe quand même dans cet album, c'est que pour le défendre, et c'est comme ça qu'on l'a défendu, c'est que le titre « Tapes from the Garage », quoi, les bandes qu'on a trouvées au fond du garage, c'était un peu l'idée de « on a une espèce d'instantané d'il y a longtemps ». Et quelque part, ces bandes-là, elles ont beau être vieilles, c'est quand même nous, et ça nous correspond toujours, et donc on veut les montrer. Et en tout cas, on veut assumer jusqu'au bout ce qu'on a produit depuis un petit moment.
Et aussi des contraintes financières ?
Alors effectivement, quand on sort un album, il faut le presser. On n'a pas fait le pari du vinyle. On a opté pour la stratégie financement participatif. C'est quelque chose de très actuel de passer par du crowdfunding, parce que c'est de suite un outil de communication qui est fabuleux. Mais si vraiment tu veux un secret, on l'aurait sorti quand même, l'album, parce qu'il était prêt, quoi. Donc il n'y a pas eu vraiment de vraies contraintes matérielles, quoi.
On avait le son qui était prêt, et en fait la campagne Ulule, ça a été vraiment histoire de distribuer, faire connaître et matérialiser ce projet-là. Mais en fait, il manquait l'objet, mais le son était déjà là. En fait.
Vous êtes devenu richissime.
Alors maintenant, on est multimilliardaires, on a chacun plusieurs piscines voilà, sur le toit de nos voitures.
Attraper le sida avec un cunnilingus ou le questionnaire cabalistique de Coco Molotov. Le duo Fuzz and Drums a accepté de se séparer pour répondre mais nous avons réuni leurs réponses.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Drums, en dehors de la musique, tu fais quoi de pas intéressant dans la vie ?
Je fais le ménage chez moi. Et ça, c'est pas intéressant. Et je le fais quand même, parce qu'on est obligé.
C'est bien.
De pas intéressant ? Ben non, j'aime bien ce que je fais dans la vie, en fait.
Tout ?
Ouais. Ben à part faire les courses... Mais même ça, j'aime bien.
Tu es cinglé.
Alors, pourquoi ne pas s'appeler The Drums and Fuzz ?
Ça sonnait plus, ça accrochait comme ça. Et en plus, le terme de fuzz, c'était lui qui était le plus caractéristique du genre musical qu'on fait. Et à vrai dire, le débat s'est plus posé la question sur à savoir si c'était fuzz et la question, c'était qu'est-ce qu'on allait mettre après, en fait.
On a eu plein de noms qu'on ne peut pas avouer avant d'arriver à converger vers ce duo, tout en gardant le « the » avant. C'est très important. Les gens nous appellent hey, « les Fuzz and Drums ». C'est bien de dire les, mais les gens, après, ils n'écrivent pas « the Fuzz and Drums », alors qu'on aimerait, nous, on aime bien être un groupe en « the », parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes en « the » qu'on adore, et on aimerait bien être dans cette mouvance-là des groupes en « the ».
Est-ce que votre ancien bassiste est toujours un pote ?
Oui, carrément.
Ah, mais un très, très, très grand pote, oui.
On est allé à son mariage. On n'en a pas fait un ennemi, au contraire. Bien au contraire.
La petite manie de fuzz.
Ouf ! Il en a plein. la petite manie... Bon, jouer trop fort, ça c'est un classique de guitariste. Il va certainement dire la même chose de moi. Ben moi je l'appelle susceptible man. Donc il est très susceptible. Mais je l'appelle aussi convaincant man, parce qu'il est très convaincant.
La petite manie de drums.
Ah. La petite manie de drums. Il en a plein, mais je les vois plus. On est un vieux couple, tu sais, donc je me rends même plus compte. Mais il en a plein. Il rayonne par son côté faussement non concentré, entre guillemets.
Pour quel guitariste tu trahirais sans scrupule fuzz ?
Alors je vais dire Jimi Hendrix, comme ça je suis tranquille. En plus il sera d'accord avec moi, il est mort, c'est pratique. Donc ouais, je dirais ça, comme ça au moins je pourrais remplacer Mitch Mitchell, ça me va très très bien.
Pour quel batteur tu trahirais sans scrupule drums ?
Oh là là, il se trahirait lui-même. Pour Chamberlain, le batteur des Smashing Pumpkins.
Si tu étais une chanson française, laquelle serais-tu ?
Je dirais la boîte de jazz de Jonas. Un peu parti, un peu naze.
Descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie.
Fuzz.
Le point sonneur des lilas.
Pareil qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous.
Tu es plutôt drogue ou alcool ?
Alcool.
Un cachou.
Oh, j'ai jamais trop été.
Merci, je ne suis pas très drogue.
Le côté désinhibant me plaît plus que le côté évasion.
Fuzz.
Alcool.
C'est lamentable comme raisonnement.
La playlist de tes obsèques, les trois premiers morceaux.
Waouh ! Bon, il faut faire rire. J'aurais tendance à balancer un gros truc qui fasse secouer. Moi, je pense qu'il y aura certainement un petit peu de Beatles. Lucy in the Sky, ça marche bien quand même. Lucy in the Sky with diamonds. De AC/DC et de Jamiroquai. Space Cowboy pour Jamiroquai. Ça, monter dans les étoiles, ça marche plutôt bien.
Tu montes au paradis ou tu descends en enfer ?
Ben comme je crois ni à l'un ni à l'autre, j'irai gentiment sous terre, nourrir le reste de la nature, faire partie du cycle naturel. Mais après l'espèce de jugement, tu as fait le bien, tu as fait le mal, je pense qu'on est tous plus complexes que ça, et heureusement.
Alors avec qui tu boirais des bières sous terre pour l'éternité ?
Ah bah avec mes idoles, avec David Bowie, tiens. J'aimerais bien parler avec David Bowie, ça m'arrangerait bien, tiens. Look up here, I'm in heaven.
I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Fuzz, la playlist de tes obsèques, les trois premiers morceaux.
Le premier, ce serait un morceau d'Hendrix, probablement. Peut-être Little Wing. Le deuxième, ce serait un morceau des Beatles. Probablement A Day in the Life. Et puis le dernier, ce serait Show Must Go On pour vraiment être très original. I read the news today, oh boy,
about a lucky man who made the grade. Tu montes au paradis ou tu descends plutôt en enfer?
Je sais pas, parce que l'éternité en enfer, c'est un peu emmerdant, je pense. Donc j'opte pour le paradis quand même.
Et avec qui tu boirais des bières pour l'éternité?
David Bowie. I was living like a king.
Till I used up all my money. Brums, fredonne-nous le morceau honteux que tu aimes en secret.
Il y a un truc terrible. J'ai retrouvé un album de Def Leppard. Leppard, qui est un espèce de groupe de hard FM des années 90. Et il y a un morceau qui s'appelle Put Your Sugar on Me, qui est d'un kitschissime extraordinaire et que j'aime bien fredonner à fond dans la voiture.
Tu peux nous la Ça fredonner.
Put Your Sugar on Me, avec plein de wow, de yeah, à la fin, comme on aime, bien surjoué, comme il faut.
Oh, Daddy.
Qu'est-ce que t'en dis? Après le show, toi et moi, on va marcher.
Et voici maintenant notre nouvelle princesse du swing.
Secrètement, dans ma tête, je fredonne.
Ta chanson culte.
Il y a un groupe qui s'appelle Waltari qui a fait un opéra rock death metal. Moi, je mettrais Move, voilà, de Waltari.
Ta chanson cul.
Moi, j'aime bien les voix féminines un peu crasseuses. Moi, je mettrais bien du Kills, tiens, pour avoir du... Ouais, carrément.
Ma chanson cul. Ça va être Get Me de Dinosaur Junior.
Ta chanson culte.
Ma chanson culte, pétard, il y en a tellement. La responsabilité que tu donnes à la chanson que tu vas dire, c'est énorme. Parmi les groupes que je peux écouter sans jamais me lasser, il y a les Pixies, par exemple.
Stop.
Et par exemple, bon, il y a Where Is My Mind, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais je ne vais pas la choisir, parce que trop de monde l'aurait choisi. Mm-hmm. Je vais dire Here Comes Your Man.
The Fuzz and Drums, lequel de ces autres duos célèbres seriez-vous? Mi, Vanilli, Daft Punk, Simon and Garfunkel?
Bon, de goût, j'aurais tendance à dire Daft Punk, parce que Mi, Vanilli, définitivement pas. Simon Garfunkel, c'est trop tendre et doux, et pensé, et politique. Moi, j'ai besoin de quelque chose de plus frontal, donc finalement, Daft Punk, c'est pas mal. Quoi.
J'aimerais plus, largement plus être Daft Punk. Clairement, mais je pense que tout le monde doit répondre ça à cette question. Clairement, je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qu'ils font. Et le côté, encore une fois, identité masquée, genre tout, c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis ils font c'est des machines à single, quoi. C'est incroyable ce qu'ils font. Mmh.
future or no future? That is the question. Nous l'avons posée à Fuzz and Drums. La récente ou la prochaine signature d'un contrat avec un label pourrait donner des ailes à leur duo pour les emmener toujours plus haut.
Oui, une question philosophique, existentielle. Le rock est-il mort ?
Drums ?
Dans l'absolu, non. Le rock ne peut pas mourir puisque c'est un cri adolescent. Après, est-ce que le rock tel qu'il était perçu dans les années 50 est mort ? Oui. Dans les années 60 aussi. Dans les années 70 aussi. Mais on en fait autre chose maintenant. Donc ça s'est embourgeoisé, ça s'est démocratisé, ça c'est moins un cri rebelle qu'au départ. Mais est-ce que ça reste pas moins du rock ? Oui. Et en tout cas, ça nous fait bien marrer et j'imagine qu'on n'est pas les seuls.
Tant qu'il y a de l'animalité et de la sueur, bon, c'est du rock'n'roll. Hein. Tu dis que c'est adolescent, mais là, c'est moins adolescent pour nous. Hein, mais... mais non, il n'est pas mort du tout. Je trouve qu'il a été, il a jamais été aussi vivant, je trouve. C'est pas qu'un effet de mode. Ça, on disait il y a 10 ans, ouais, c'est un effet de mode. On dit que le rock a été sauvé par les Strokes au début des années 2000. Qu'ils ont énormément apporté à l'attitude et au son rock actuel, même si il n'y a pas longtemps avant il y avait quand même une Nirvana quand même, donc il n'est pas resté mort très longtemps le rock. Hein. Non, là je trouve qu'il est très actuel et c'est accessible à tout le monde. On peut continuer à être adolescent, s'acheter une guitare à 100 balles, un ampli et maintenant avec un ordinateur et une tablette, un iPad, on peut enregistrer des choses de très bonne qualité, on peut fabriquer de la musique, on peut continuer à jouer dans un garage. Tant qu'on peut jouer dans un garage avec des potes, le rock est vivant. Hein.
Nous espérons que vous apprécierez notre musique. Vos contributions vous permettront de vous procurer notre album. Au revoir et merci. Nous comptons sur vous.
Et cette campagne Ulule, la bonne surprise, c'est qu'on a fait 220%. Quoi. Ça nous fait des réserves d'argent pour pouvoir faire d'autres albums, pour pouvoir améliorer notre base secrète.
Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger, ready to move out.
La très bonne nouvelle derrière, mais après pour l'instant on n'en est qu'au début donc c'est un peu compliqué d'en parler, mais il y a un autre label qui commence à nous contacter, ça peut avoir une autre portée, là on va changer de braquet quoi.
Exactement, la Closer Records nous a contactés et donc ils ont été intéressés par la formule duo, le côté un peu radical du son. Normalement, le deuxième album sera produit par Closer Records et on est très très contents. Alors bien sûr, on continuera à demander à Discochoc de collaborer parce que c'est les premiers à nous avoir tendu la main et donc on les oublie pas. Donc ce sera probablement une tri-production. Ça sortira dans moins de 6 ans, oui.
Une tournée, des dates.
On n'en sait rien. Encore une fois, il faut matcher l'emploi du temps. Moi, j'aime bien le groupe Les Vampas pour ça, quoi. C'est que Didier Vampas, il avait un taf à la RATP et donc toutes ces dates étaient calées par rapport à ses contraintes dans son travail. Donc, on est un peu dans ce même cas de figure. Donc, on verra. On verra comment ça se passe. D'ores et déjà, on a une date en début septembre dans le cadre du festival de Closer Records. On sera parmi les 30 artistes de Closer à jouer. Ce sera à Nîmes. Mais plus de détails bientôt sur les réseaux sociaux.
Justement, est-ce qu'une tournée, ça vous fait rêver ?
Nous, on est pas vernis au niveau des concerts. C'est que depuis peu de temps que les gens se déplacent. Ouais, le plan galère, c'est quand tu déplaces ton matos tout seul, que tu joues devant 20 personnes, que tu vends un disque et que tu rentres à ton local à 5h du matin et que tu te délectes d'un kebab à 5h20. Ça, c'est un peu pour ça qu'on fait du rock'n'roll aussi, c'est pour le kebab de 5h du matin. Les galères de concert, on les connaît, donc oui, une tournée, ça fait rêver, mais pas à n'importe quel prix.
Bref, peut-être, pour la suite.
Jouer avec Jimi Hendrix.
Comment ça, il est mort ? Il est mort ? Ouais, une première partie d'un groupe qui nous fait rêver, ouais, ça... Ouais, en des premières parties de Brave Olsen, ça nous va très très bien, ou des Raconteurs, ou des comme ça, ça nous dirait bien, quoi.
Dire, non, mais on n'a pas de rêve, nous, tu sais, on est blasés. Mais en fait, si tu nous balances en première partie des Raconteurs, mais on signe des quatre mains, en l'occurrence, là.
Merci, Drums, Fuzz.
Au revoir, Fuzz and Drums.
Bon ben moi je suis pas mécontente d'avoir levé le voile sur Fuzz and Drums.
Le mystère est éclairé, Charlotte.
Au revoir alors, à la prochaine kermesse, Coco.
Au revoir, Charlotte.
Au revoir, Coco.